Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business.
De retour dans le Business Club de France avec un entrepreneur, j'ai presque envie de dire, pas comme les autres, vous allez voir son parcours et puis aujourd'hui il a décidé aussi de venir en aide, pas forcément, mais en tout cas d'accompagner les startups dans leur développement pour éviter qu'elles ne commettent quelques erreurs qui peuvent être fatales. Nous sommes en compagnie de Julien Coulon, bonjour.
Bonjour Michel.
Merci d'être avec nous, vous êtes plutôt un homme qui rebondit et qui s'adapte à toutes les situations et c'est ce qui nous intéresse dans le Business Club de France. On va pas faire toute votre vie et tout votre parcours, mais on va commencer peut-être par une date. 2009, vous fondez Cedexis, les aiguilleurs du net, dites-vous à l'époque, car c'est une solution qui permet de réduire le temps d'affichage d'un site internet et ça marche très vite, très fort finalement.
Absolument. Si on fait un petit cours d'internet, l'internet c'est un peu comme les routes, les nationales, les départementales. Il y a à peu près 50 000 routes sur internet. Et comme vous voyez là, on est au bord du périphérique, il y a des embouteillages. Ouais. Et donc l'idée, c'est d'avoir créé un peu le Waze de l'internet ou l'aiguilleur du net, c'est-à-dire de collecter des milliards d'informations sur l'état de santé des réseaux, des clouds, des infrastructures, créer une espèce de cartographie temps réel de cet état de santé. Mmh. Et puis du coup, montrer le problème, c'est bien sympa ça, mais ça rapporte pas forcément beaucoup. Et puis dans notre ADN, c'était vraiment de résoudre le problème. Donc là, Waze vous dit « Ah, il y a un bouchon », et bien là, non seulement je vais vous montrer qu'il y a un bouchon, mais je vais aussi prendre le volant, prendre la prochaine sortie, voilà, prendre l'itinéraire bis pour gagner en temps d'affichage.
Parce que ça a l'air de rien, vous avez déclaré « Nous offrons la garantie que les informations demandées s'affichent en moins de 2 secondes ». En fait, c'est l'affichage le plus rapide possible sur un site internet pour l'internaute au final, parce que cet internaute, il est assez agaçant quand il veut acheter quelque chose et que ça ne s'affiche pas. Eh ben, il achète pas,
il s'en va. Mais même en 2006, on est en 2018, en 2006, Amazon annonçait que 100 millisecondes de perdu, c'était 1% des ventes.
C'est ce que j'ai vu aussi.
Aujourd'hui, même sur une vidéo, 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle bufferise. Vous savez, quand vous avez la petite fleur, là, qui tourne. Ouais. Et donc, ça, c'est absolument intolérable. Ouais. Et donc, notre métier, mon ancien métier maintenant, c'était de résoudre ces problèmes.
Et ce qui est assez curieux, on en a parlé ensemble, mais c'est pas banal. Parmi vos premiers clients, le journal Le Monde, on retrouve aussi Carla Bruni-Sarkozy.
Ah, quelle histoire. C'est vrai que j'étais en train de déjeuner avec un Américain et puis le téléphone sonne et donc comme un bon Français, j'aime pas qu'on me dérange quand je déjeune, donc je raccroche et donc le téléphone sonne une deuxième fois et là c'est un code avec mes enfants pour me dire si t'appelles deux fois de suite, c'est que
ouais, j'aurais peut-être fait attention.
Donc je décroche et là il y a un monsieur qui me dit voilà, je m'appelle Eric Parent, j'ai eu votre nom par plusieurs personnes sur la place de Paris, est-ce que vous pouvez me sauver la vie? Alors quand on a un tel appel, c'est un peu surprenant et donc en fait il me dit voilà, je suis en charge du site de Carla Bruni-Sarkozy, le site est en panne depuis plusieurs jours, donc là j'étais vexé parce que d'habitude j'ai l'information un peu plus rapidement et le soir même elle faisait le 19-20 sur France 3 et le 20h. Et d'ailleurs pour nos auditeurs, si vous êtes en charge d'un site internet, le 19-20 génère plus de trafic sur le site que le 20h. Donc petit conseil en termes de communication, c'est moins compliqué d'accéder au 19-20 qu'au 20h. Ouais. Et du coup, je lui dis, de toute façon, vous êtes dans le noir, donc ça peut pas être pire. Branchons. Et 23 minutes après, le site était disponible. Et puis c'est parti. Et puis là, il m'a dit, combien je vous dois? J'avais même pas encore créé la structure. Et je lui dis, par contre, est-ce que je peux vous demander de buzzer autour de l'événement, de faire du bruit autour de l'événement? Et j'appelle le papy de l'internet, quelqu'un qui m'a poussé à aller dans l'internet en 1992. Je suis un vieux papy, un vieux crocodile de l'internet. Et il titre un truc du genre, Cedexis a sauvé la vie de Carla Bruni. un peu accrocheur. Et résultat, je me suis fait convoquer à l'Elysée. Voilà. Convoquer à l'Elysée, qu'est-ce que vous avez fait à Carla Bruni? Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé un petit peu et j'ai fait ma première erreur business d'ailleurs.
À ce moment-là?
Oui, parce que c'est ce que j'appelle l'erreur du 5 degrés Est. C'est-à-dire que votre premier client vous demande des choses qui sont pas complètement en adéquation avec la philosophie, avec la stratégie que vous aviez définie. Et donc, vous dites, on peut faire un peu de consulting. Ouais, allez, je vais faire un peu de consulting. Et puis, au bout d'un moment, on passe beaucoup plus de temps à faire du consulting que l'idée originelle qu'on avait pour lancer la société. Et donc, du coup, on perd du temps. Et puis, en plus, j'ai jamais été payé. Donc, si j'admets, il y a des gens du gouvernement qui écoutent, vous me devez 60 000.
Voilà, ça c'est dit. Non, mais en même temps, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui débute, comme vous l'avez fait à ce moment-là. Ouais. Vous prenez l'argent où il est,
Absolument.
Même s'ils vous ont pas payé, mais enfin normalement ils ont dû vous payer.
Oui, mais c'est bien terminé.
Oui, non, mais j'imagine. Mais voilà, ça veut dire que même si on fait plus de consulting, alors que à la base c'était pas le job qu'on devait faire, bah on dit pas non. Hein.
C'est un compromis difficile, mais il faut quand même essayer. Bon, après je dis ça, je me suis pas payé pendant 2 ans et demi hein, pour lancer Cedexis. Ouais. J'ai sacrifié pas mal de vacances, même des moments où c'est pour ça que la famille est toujours très importante quand on lance sa société. Hein, ça fait partie des deux conseils que je donne quand des jeunes viennent me voir en me disant. Qu'est-ce que tu me conseilles avant de me lancer? Avant de parler du business, est-ce que ta femme est d'accord ou ton mari, ton concubin, ta concubine? Parce que sinon, ça génère le phénomène des 3D, donc divorce, dépression, dépôt de bilan. Et puis, ce qui génère le phénomène des 5C, c'est pour... C'est con, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, oui, il faut bien générer un peu de cash, mais ce temps perdu est difficile à rattraper, et donc, c'est pas simple comme décision.
Alors, on va voir par la suite, et vous allez nous donner des conseils. Je reviens dans votre parcours. Alors, on a vu ses premiers clients. Bon, aujourd'hui, l'entreprise a comme clients tout petit, des Microsoft, des Nissan, des Air France, etc.
Des Facebook, des Twitter, voilà. Huawei.
Alors, dans votre parcours, vous avez levé 33 millions de dollars pour déployer vos services un peu partout dans le monde, 9 bureaux ouverts en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie, Cedexis, vous l'avez vendu. À l'américain Citrix début 2018. Je sais que le chiffre est confidentiel, je reprends celui qui a été donné dans la presse, entre 70 et 120 millions de dollars. On parlait de vous à l'époque comme une future licorne en France, et vous faites le choix... Enfin, à l'époque, c'est pas si vieux que ça, en fait. Il y a que quelques mois. Et vous faites le choix de la vendre. Qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'en France, on n'a pas les moyens d'accompagner les entreprises prometteuses vers des destins mondiaux, tout en restant des entreprises françaises ou européennes, on va dire.
Je reprendrai la phrase que j'ai mis du temps à ingurgiter, à digérer. La phrase de mon investisseur américain qui me dit « When you raise money, your company is changing, it's no more your company. Mm-hmm. » Donc quand vous levez de l'argent, votre société change, ce n'est plus votre société. Il faut comprendre que les fonds d'investissement ont un agenda qui n'est pas forcément toujours aligné avec celui de l'entreprise.
C'est vrai.
Et on le sait, je suis pas naïf, je savais qu'à partir du moment où on lève de l'argent, il y a un moment où ils doivent sortir. Donc c'est un choix délicat. C'est vrai que j'ai cette intime conviction que j'aurais pu, dans 3-4 ans, vendre la société peut-être 500 millions. Mais
vous êtes dit c'est peut-être le bon moment pour pérenniser finalement.
C'est ça. C'est-à-dire que il y avait ce côté-là, donc où on se dit bon bah est-ce qu'on va réussir à continuer à travailler avec les fonds comme. En adéquation avec la stratégie de l'entreprise, donc ça c'est un point. Mais il y a surtout aussi le cas client. Et je rappellerai l'appel d'offres de Michelin, qui était pourtant qui est pas la marque la plus digitale à laquelle on pense en premier, mais qui avait une vision que j'ai trouvée extrêmement avant-gardiste. Et il disait voilà. Je lance un appel d'offres. J'ai des applications métiers, j'ai des sites internet, mobiles et tout ça. Je veux que mes contenus soient accessibles partout dans le monde en moins de 3 secondes. Et je veux 100% disponibilité, débrouillez-vous. Et donc ça veut dire que au lieu d'avoir une obligation de moyens, il fallait avoir une obligation de résultat. Alors sur Cedexis, on arrive à contrôler quelque part la qualité de service de l'internet, mais il fallait arriver aussi à contrôler ce qui se passe derrière le firewall, c'est les applications, le CRM, enfin toutes ces applications métiers qui sont là. Et pour avoir ça, soit on partait dans une stratégie où on développait des solutions, c'est-à-dire concurrentes, peut-être un peu disruptives, d'un Citrix, d'un Cisco, d'un InfoVista, de gens qui sont très spécialisés sur les applications métiers, soit on se rapprochait d'eux. Et comme c'était quand même plus simple, faut comprendre que l'objectif initial de la société, c'était de pouvoir garantir un service level agreement, donc une qualité de service de bout en bout, donc de l'application jusqu'à l'utilisateur.
Et vous aviez peur qu'il vous manque une brique, on va dire, plus technologique.
Elle commençait à me manquer de plus en plus.
Ouais, pour
et
pouvoir
donc,
grandir
le rapprochement
sereinement.
Était plutôt naturel et en adéquation avec le fond.
Voilà, vous les connaissiez, donc c'était tout à fait cohérent. Et vous, maintenant, faites quoi?
Je travaille pour des fonds d'investissement, un peu pour comprendre un peu mieux comment ils fonctionnent, comment ça fonctionne, donc Expone Capital, Daphne, Serena. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui ont eu la gentillesse de m'aider lorsque je me suis lancé.
Et aujourd'hui, donc, bénévolement, vous allez voir comment ça se passe, qu'est-ce qui pourrait... enfin, pour éviter qu'elles commettent des erreurs. Ce sont
exactement.
Des startups que
ouais.
Que vous accompagnez.
Soit j'ai fait tellement d'erreurs que du coup, je sais exactement, j'essaye de leur pousser, de les pousser à éviter de faire les mêmes erreurs que celles que j'ai faites. Et ça marche plutôt bien. C'est très encourageant. Et je trouve en plus les startups beaucoup plus matures que la maturité que moi j'avais en 2009 quand on l'a lancé. Donc, puis voilà. Puis en tant que journaliste, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est que je travaille aussi sur, je rejoins une association qui est là pour la protection des lanceurs d'alerte.
Ouais.
Donc voilà.
Ouais. Vous dites que la vie d'un entrepreneur aussi entre euphorie et dépression.
Ah oui, je pense que c'est la différence entre quelqu'un qui, je pense. La différence entre un entrepreneur et quelqu'un, j'allais dire, de normal, parce que je sais plus sur quelle fake news j'ai lu ça, mais 70% des entrepreneurs divorcent, alors que, voilà, l'espérance de vie baisse de 20%. Enfin, il y a plein de statistiques pas très encourageantes. Mais, l'écart type entre l'euphorie et la dépression est, je pense, ce qu'il y a de plus difficile à gérer. C'est-à-dire, dans un espace-temps très réduit, on peut se retrouver avec vraiment presque les rois du monde, tout en restant toujours très très humble, mais, avec cet enthousiasme génialissime, un peu comme quand, je sais pas si Michel vous avez des enfants, mais quand vous voyez votre bébé naître,
et ben c'est une patate,
ouais,
on a envie de donner de l'énergie,
voilà, c'est génial,
et
on voit toute cette création qui et tous ces jeunes générations X, Y, Z qui s'éclatent, et puis des gens qui sont plus expérimentés, qui ajustent le tir, c'est vraiment hyper enthousiasmant, et puis tout d'un coup, en l'espace de 2 secondes, bah vous avez soit une mauvaise nouvelle d'un client, soit un truc qui marche pas comme vous voulez, et puis vous êtes dans une déprime totale. Et donc, cet écart-type-là est, je trouve, ce qu'il y a de plus délicat à gérer en continu.
Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a cette dépression, parce qu'une mauvaise nouvelle, il y a aussi la fatigue, vous le disiez tout à l'heure, les premiers temps, vous ne vous payez pas, et c'était 7 jours sur 7, pratiquement.
Ouais, et surtout que mon associé était aux États-Unis, donc 9 heures de décalage horaire pour démarrer, c'était sport.
C'est clair. Si vous ajoutez là-dessus, parfois, il y a de l'échec aussi, on en a parlé ensemble, on appelle la faillite ou le méchant mot français. Et là, on vous enferme dans ce pays illico, dans la case des losers. Les 3D et les 5C, on peut le comprendre là.
Ah oui, de toute façon, l'écart-type entre l'euphorie et la dépression, c'est que des rebonds. Et à chaque fois qu'on arrive on parvient à supporter cette échec ou cette, j'aime pas le mot échec parce que ça a une vraie connotation négative, ce challenge, ce défi, dès lors, on apprend. Et j'aime bien cette image un peu de d'un escalier qui monte et chaque marche est en fait un échec. Ouais. Et donc on grimpe et on évolue grâce à l'expérience acquise liée à des échecs qui peuvent être plus ou moins gros. D'ailleurs, vous voyez, dans le monde de l'internet, on n'appelle même plus ça des échecs, on appelle ça des pivots. Ce qui d'ailleurs a tendance à m'agacer un peu parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui pivotent tellement que elles deviennent des girouettes. Mais donc on a le droit quand même de réfléchir un peu avant de changer. Mais c'est
enfin, voilà. Dernière question, Julien Coulon. Si, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer, mais qui se posent des questions, parce qu'on l'a vu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille lorsqu'on est entrepreneur, qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors, oui, il faut se lancer. Oui, c'est une expérience extraordinaire. Il n'y a pas de doute. Cependant, il faut quand même un petit peu d'abord surveiller sa logistique. Donc, premier conseil, à nouveau, est-ce que votre mari, votre femme, votre concubin, votre concubine est partante? Deuxième conseil, prenez un coach. 80% des sociétés qui sont successful ont un coach, c'est pas pour rien. Et il y a tellement de moments où on se sent seul qu'il faut se faire accompagner. Là, il n'y a même pas de questions à se poser. Mais je vais faire l'analogie avec la famille. Je me sens maintenant papa d'une famille de 75 personnes. On s'appelle encore tous les jours. C'est une des plus belles expériences de vie. J'ai appris le Julien de avant la création de Sedexis et le Julien après est complètement différent. J'arrive même maintenant à parler devant vous en radio sans bafouiller, ce qui est quand même... non, vraiment, c'est
en deux mots, si je résume, consolider quelques bases, c'est-à-dire son entourage, parce qu'on en aura besoin, mais lancez-vous.
Absolument. Lancez-vous.
C'est un magnifique défi. Merci beaucoup,
Julien
Coulon, d'être venu dans le Business Club de France. Merci bien.